Toujours sur les ondes de CKUT 90,3 FM, ça c'est la rage du peuple. Ça c'est une rétrospective sur l'année aussi. On va parler de ce qui va passer en 2007. Maintenant, on entre la portion français de la rage du peuple. Normalement, il y a dialecte, l'émission dialecte, mais aujourd'hui, on a la rage du peuple. Dialecte va retourner semaine prochaine. Évidemment, un de les enjeux qui a occupé beaucoup de nos attentions ici à CKUT, l'attention de beaucoup de militants, l'attention du monde, c'était le bombardement de Liban, le bombardement et l'attaque sur Liban par les forces israéliennes en juillet. Alors, on va commencer ici avec un reportage de En profondeur. En profondeur a fourni beaucoup de rapports pour la rage du peuple aujourd'hui. Alors, pendant la journée, on va jouer le rapport de l'année. Ça, c'est un reportage réalisé lors d'une manif contre l'intervention israélienne au Liban autour du cessez-le-feu, une manif ici à Montréal. Après le reportage, on va parler avec Leila, un membre de Tadamon, un groupe de solidarité avec le Liban. Mais avant ça, un reportage de profondeur autour de l'attaque israélienne au Liban, une manif ici à Montréal au début de août.
Cessez le feu maintenant! Cessez le feu maintenant! Cessez le feu
maintenant! Ça fait depuis 48, depuis la qu'elle est là, Israël, qu'elle massacre le peuple du sud Liban. Et ça doit arrêter, ces massacres-là. Et maintenant, moi, je vois que tout le monde, les États-Unis, les Européens, ils font à leur façon, sans voir, nous, qu'est-ce qu'on veut. Ils ont sorti des solutions, mais ils ont omis de dire, dans les solutions, que l'armée israélienne doit se retirer du Liban en même temps que le cessez-le-feu.
De personnes libanaises de retour de Liban, Mademoiselle Sawsan Kalash.
Bonjour, je m'appelle Sawsan et j'ai passé la première semaine de l'offensive israélienne au Liban à Beyrouth. Et je voudrais partager des petites idées avec vous. Depuis le premier jour de l'offensive, le mercredi 12 juillet l'après-midi, depuis que Israël a annoncé qu'elle allait attaquer le Liban, on savait tous qu'on allait goûter à une guerre impitoyable, une guerre qui allait être sans pitié. Et en effet, depuis le deuxième jour, on a bien vu qu'ils avaient ciblé des civils et attaqué le Liban complètement dans ses quatre coins. En effet, depuis le deuxième jour, ils ont bombardé, ils ont causé un besiegement, un siège au Liban. Depuis le deuxième jour, le deuxième matin, ils ont bombardé l'aéroport lui-même et les réserves de carburant dans l'aéroport, ce qui a causé le seul aéroport à être fermé. Depuis le deuxième jour, ils ont stationné leurs bateaux de guerre, leurs dizaines de bateaux de guerre sur les côtes libanaises. Depuis le deuxième jour, ils ont commencé à bombarder toutes les routes essentielles qui vous prennent du Liban en Syrie. Et donc le Liban maintenant se trouve isolé, isolé de l'extérieur et isolé de l'intérieur. Parce que depuis le deuxième jour, ils ont, depuis le premier jour, le mercredi 12 juillet, ils ont commencé à bombarder tous les grands tunnels et, grands, et tous les grands ponts et toutes les grandes routes qui lient et continuent à bombarder ça jusqu'à maintenant, tous les grandes routes et les tunnels et les ponts qui lient des villages aux villages. Jusqu'à ce qu'au point où le sud est isolé de la capitale, est isolé du nord, est isolé de la vallée de la Beka, est isolé des montagnes. Et il faut pas. Et donc, ils ont, jusqu'à aujourd'hui, ils ont bombardé 70 ponts. Et ce n'est pas quelque chose à prendre à la légère, ce n'est pas juste que des ponts et l'infrastructure civile a été bombardée, a été détruite. Ça veut dire beaucoup plus que ça. Ça veut dire que des familles partout au Liban ont été séparées. Ça veut dire que tout le mouvement est handicapé, que les ambulances n'arrivent pas à arriver à l'endroit où ils doivent prendre les victimes. Ça veut dire que les gens qui doivent aller à leur travail ne peuvent plus aller au travail. Et pour les gens qui travaillent le jour au jour et qui veulent nourrir leur famille au jour le jour, ne pas aller au travail est une question de survie. Et en effet, Israël est en train d'attaquer la survie basique de chaque personne au Liban. Depuis le deuxième jour, ils n'ont pas hésité à commettre des massacres. On a tous entendu du massacre qui s'est passé à Kana, qui a tué 56 personnes. On a tous entendu le massacre qui s'est passé depuis deux jours dans la région du Raa, au Beka Valley, et qui a tué 26 fermiers syriens. Mais ce ne sont pas les seuls massacres. Depuis le deuxième jour, il y a au moins une dizaine, vingtaine, trentaine de personnes qui meurent par jour. Ça, c'est des massacres collectifs. Ils sont en train de bombarder des maisons où il y a des familles entières qui abritent, au sud surtout et à la Beka surtout. Jusqu'à maintenant, il y a au moins une centaine de maisons qui ont été abattues sur la tête des familles et qui ont résulté dans l'assassinat, dans le massacre des familles entières. Et ce n'est inacceptable. Et ce qu'on n'arrive pas à comprendre au Liban depuis le jour 1 de l'offensive, ce qu'on n'arrive pas à comprendre, comment est-ce que le monde peut continuer à justifier les attaques israéliennes? Je vais vous demander quelque chose en tant que Canadien. Imaginez qu'à partir de demain, l'aéroport de Dorval est bombardé. Imaginez si à partir de demain, tous les ponts et les routes essentielles qui vous prennent de Montréal à l'extérieur sont bombardés. Imaginez si les générateurs électriques à Montréal sont bombardés, vous êtes laissé avec quelques heures d'électricité par jour. Imaginez si tout ce bal se passe, le Canada ne se tasserait pas. Et alors pourquoi se taire comme ça? Pourquoi est-ce que c'est acceptable quand ça se passe au Liban?
Mes amis, nous voulons, nous demandons la paix.
Bravo.
Et maintenant, avec nous, M. Faraj Nakhle, un membre de la Fédération palestinienne du Canada et ex-président de la Fédération canado-arabe.
Bravo. Chers amis, marhaba, bonjour, good day, salam et shalom. Je vois que vous êtes plusieurs milliers ici qui sont venus en solidarité avec le peuple palestinien et je vous amène la solidarité du peuple palestinien au peuple libanais. On a dit que c'était provoqué. Alors je vous rappelle qu'Israël a bombardé l'aéroport de Beyrouth en 73 pour la première fois. Israël a agressé le Liban depuis ce temps-là. La destruction d'infrastructures n'est pas une réaction mesurée. Non, M. Harper, la destruction des centrales électriques, les 800 et plus morts, les plusieurs milliers de blessés, un million de réfugiés, ce n'est pas une réaction mesurée. Non, M. Harper, et je dis à tous les partis politiques et à M. Harper, je dis une chose. Je me souviendrai, M. Harper.
Ouais!
mon frère. Salut à toi, peuple Khmer. Salut à toi, l'Algérien. Salut à toi, le Tunisien. Salut à toi, Bangladesh. Salut à toi, peuple grec. Salut à toi, petit Indien. Salut à toi, punk iranien. Salut à toi, rebelle afghan. Salut à toi, le dissident. Salut à toi, le chilien. Salut à toi, le petit malien. Salut à toi, le mohican. Salut à toi, peuple gitan. Salut à toi, l'éthiopien. Salut à toi, le tchadien. Salut à vous, les partisans. Salut à toi, Choli allemande. Salut à toi, le vietnamien. Salut à toi, le cambodgien. Salut à toi, le japonais. Salut à toi, le thaïlandais. Salut à toi, le laotien. Salut à toi, le coréen. Salut à toi, le polonais. Salut à toi, l'irlandais. Salut à toi, l'européen. Salut à toi, le mongolien. Salut à toi, le hollandais. Salut à toi, le portugais. Salut à toi, le mexicain. Salut à toi, le marocain. Salut à toi, le libanais. Salut à toi, le pakistanais. Salut à toi, le philippin. Salut à toi, le jamaïcain. Salut à toi, le guyanais. Salut à toi, le togolais. Salut à toi, le guinéen. Salut à toi, le guadeloupéen. Salut à toi, le congolais. Salut à toi, le sénégalais. Salut à toi, l'afro-cubain. Salut à toi, le portoricain. Salut à toi, la haute volta. Salut à toi, le Nigeria. Salut à toi, le Gaboni. Salut à toi, le vieux ch'ti. Salut à toi, Che Guevara. Salut au comité de soldats. Salut à tous les hommes libres. Salut à tous les apatrides. Salut à toi, la Bertaga. Salut aussi à la Panda. Salut à toi, le punk anarchiste. Salut à toi, skin communiste. Salut à toi, le Liberia. Salut à toi, le Sri Lanka. Salut à toi, le Sandiniste. Salut à toi, le légendiste. Salut le mouvement des jeunes arabes. Salut à toi, Guatemala. Salut le PK du contingent. Salut à toi, le Chotopan. Salut à toi, peuple Kanak. Salut à toi, Tchécoslovaque. Salut à tous les petits dragons. Salut à toi, qui est que bon. Salut à toi, jeune malgache. Salut à toi, le peuple Bac. Salut à toi, qui est au violon. Salut à toi, les Morocons. Salut à toi, le Yougoslav. Salut à toi, le voyou slave. Salut à toi, le Salvador. Salut à toi, le Molotov.
Et salut à vous les auditeurs et auditrices de CKUT 90,3 FM. Ça c'est la rage de peuple. La musique c'était Burrière Noire. Salut à toi. Et avant ça, on a écouté un reportage réalisé lors d'une manif cet été contre l'intervention israélienne au Liban autour de cessez-le-feu. Dans le studio, maintenant, nous avons Leila. Leila est un membre de Terre de Monde. Leila, bonne année.
Bonne année.
Et merci de venir pour nous jaser et parler des luttes, etc. C'est quoi vos impressions après d'attendre cet reportage? L'été, c'était évidemment une période très active pour Terre de Monde. Est-ce que vous avez des réflexions sur cette période, juillet ou septembre, même jusqu'à maintenant, mais surtout les 2 mois pendant le bombardement?
Alors en fait, cette manifestation, c'était une énorme manifestation qui a eu lieu à Montréal et qui a mobilisé beaucoup de personnes. Et je pense, en fait, moi, ce que ça me rappelle, c'est à quel point l'agression israélienne était violente et à quel point on l'oublie un petit peu aujourd'hui. Et aujourd'hui, les conséquences qui se passent dans la région au Liban, c'est les conséquences de cette attaque israélienne sur le Liban cet été. Et ça me rappelle également à quel point la communauté libanaise, mais aussi tous les militants, excusez-moi, les Canadiens se sont mobilisés cet été pour demander un cessez-le-feu immédiat et sans condition, et que le gouvernement canadien n'a absolument pas répondu à ça. Et c'est surtout ça que ça m'inspire, c'est cette position canadienne qui était absolument scandaleuse et qu'il ne faut pas qu'on oublie, et qui continue à se maintenir aujourd'hui de la même manière, à soutenir Israël sans condition. Et c'est vrai que ne pas réclamer un cessez-le-feu immédiat, demander à Israël simplement d'arrêter les bombardements, était vraiment un acte irresponsable, parce qu'il y a eu plus de 1300 personnes qui sont mortes au Liban, plus les destructions, etc. Donc,
Leila, tu es une personne d'origine libanaise.
Oui.
Et je demande, qu'est-ce que vous avez pensé? C'est quoi vos sentiments quand cette attaque est arrivée? Est-ce que on pense, ça arrive encore. Est-ce que c'était une surprise? C'était quoi votre réaction vraiment personnelle à cette attaque? Vous pensez de votre famille? Comment vous avez réagi avec tout ça en juillet quand vous avez appris les nouvelles de bombardement après le kidnapping de 2 soldats?
Je pense que c'était quelque chose de très intense pour tout le monde, mais surtout pour les Libanais, c'est vrai. C'est une grosse tristesse et une grosse révolte, une grosse colère, je crois, surtout. Pareil, de la passivité de la communauté internationale. Et je crois que c'est vraiment... Enfin, moi, pour moi, c'était la première fois qu'on regardait à ce point-là. On a toujours regardé plus ou moins la région sans réagir, ou en réagissant mal. Mais les positions de beaucoup d'États qui, d'habitude, auraient normalement demandé un petit peu plus... aurait mis un petit peu plus de pression sur Israël, ça n'a pas été fait. Et c'est vrai que cette fois, le monde entier, et y compris les États arabes, et je crois que ça, c'était vraiment une nouveauté, d'avoir une telle passivité, ou en tout cas même pratiquement un accord, de dire « Ok, on va laisser Israël finir le sale travail ». Et évidemment, bon, une grosse tristesse pour la détresse humaine et pour ce qui allait se passer. Mais la situation au Liban était instable. C'est pas vrai que le pays se relevait, que c'était extraordinaire et que c'était beau. Moi, je crois pas à ça. C'est sûr que la situation économique s'améliorait un petit peu et que ça a été catastrophique d'avoir cette attaque. Mais c'était pas non plus, waouh, on était dans cette paix extraordinaire. Ça faisait un an et demi qu'il y avait quand même des troubles et on s'attendait à ce qu'il se passe quelque chose. Mais c'est vrai que ça a été une surprise pour tout le monde que l'attaque soit aussi sauvage et brutale.
Leila, tu es membre de Tademan, c'est un groupe de solidarité avec le Liban. Toujours dans une situation comme ça, le défi pour les groupes de solidarité, c'est de décider quoi faire, c'est quoi utile. Alors, je voudrais que vous partagiez avec nous les débats internes avec Tademan, comment vous avez réagi, pourquoi vous avez réagi d'une certaine façon ou l'autre, c'est quoi, qu'est-ce qui se passait? Parce que on sait très bien, à Montréal, il y a des milliers de personnes qui ont pris la rue, mais ça arrive pas de rien. Il y a des organisateurs, des organisatrices qui réfléchissent sur ces questions. S'il vous plaît, partagez vos réflexions comme Tademan et tes réflexions personnelles.
Alors Tademan est né justement pour faire entendre une voix qui n'était pas assez entendue et parce qu'il y avait une nécessité d'avoir un groupe de solidarité particulièrement avec le Liban. Parce que justement il n'y en avait pas, en tout cas au Canada, à Montréal, et en plus parce que la communauté libanaise, la communauté arabe, etc., mais surtout la communauté libanaise est très importante ici et qu'on pensait que sa voix n'était pas assez entendue et en tout cas pas d'une façon sur... disons, en dehors des lignes politiques traditionnelles, c'est-à-dire avec des revendications qui seraient pour tous les gens qui habitent au Liban, des revendications qui ne sont pas celles des partis, qui sont basées sur la justice sociale, le groupe, l'organisation, on va dire, de base. Et donc, dans Tadam, on a réagi très vite au moment où il y a eu la guerre, parce qu'on avait une délégation qui était là-bas, donc vous avez entendu quelqu'un de la délégation tantôt. Donc, on a réagi très vite, il y avait une délégation là-bas qui essayait d'organiser avec des groupes de base au Liban aussi. On a essayé surtout de mobiliser par rapport à la position de la communauté internationale et la position du Canada, parce que d'ici au Canada, c'est ce qu'on peut faire. Et puis évidemment, d'apporter un soutien au Liban. Donc on a essayé d'envoyer un petit peu d'argent, etc. Mais ça, c'est peut-être pas le plus important. Mais en tout cas, de montrer une solidarité, de montrer que les groupes et la diaspora ici se mobilisent également quand le Liban est attaqué. Et donc, on a essayé d'organiser sur beaucoup de fronts. Alors, on a travaillé un peu dans l'urgence cet été. Et depuis, on a évidemment basé notre réflexion et notre travail sur des sujets plus, on va dire, sur des objectifs plus définis. Donc, la campagne de boycott des investissements et sanctions qu'on essaye de poursuivre très intensément ici au Canada, qui est vraiment très importante parce que mettre la pression sur Israël, c'est déjà... d'une certaine façon aider toute la région et aider le Liban. Et c'est la meilleure façon de demander des réparations, des comptes à Israël. Pour l'instant, personne ne lui demande des comptes. Donc, la campagne de boycott. Et puis aussi, on savait, mais à quel point dans la politique canadienne et la politique internationale, le fait de définir des groupes de résistance comme terroristes est un réel blocage au débat. En fait, c'est dès le moment où vous mettez un groupe dans la liste des organisations terroristes, c'est fini, on a le bien, le mal, un État démocratique, Israël. Alors évidemment, cette définition est en elle-même absolument absurde, mais au-delà de ça, c'est simplement dans le discours politique, pour les gens qui ne savent pas beaucoup, dire tiens, on a ce groupe qui est le mal et qui est dans la liste des organisations terroristes, et puis en face, on a un pauvre État attaqué, ce qui est évidemment totalement le contraire. Et les groupes qui sont sur cette liste d'organisations terroristes, bon, il y en a plusieurs, ils sont très très différents, donc ça n'a pas beaucoup de sens. Mais le Hezbollah particulièrement est un groupe de résistance qui est né dans les années 80 et qui résistait à une occupation militaire qui a duré une quinzaine d'années, 18 ans au Liban Sud et qui était sauvage, brutale et qui était illégale et tout le monde l'admettait. Et le Hezbollah a lutté contre ça et en 2000 a réussi à libérer le Liban. Donc il y a quand même, tout le monde reconnaît le Hezbollah comme un groupe de résistance. Voilà.
Leila, Vous étiez récemment au Liban, si je comprends bien, et on voit pas vraiment dans le média, mais on sait qu'il y a des manifestations très larges. On décrit ces manifestations comme des manifestations de l'opposition du Liban, c'est-à-dire les partis comme Hezbollah et des autres qui sont en train d'essayer de créer un autre gouvernement. Ils ont lancé une campagne de mobilisation populaire. Alors, est-ce que vous pouvez partager, c'est quoi exactement cette mobilisation? Il est rendu où? C'est quoi les significances de ça? Parce qu'on voit ça juste quelques mois après les bombardements. Il y a certainement un lien entre les deux. Alors, s'il vous plaît, décrire qu'est-ce que vous avez vu vous-même quand vous étiez au Liban récemment autour de ces mobilisations?
Alors, ce qui s'est passé cet été au Liban, évidemment, ce qui se passe aujourd'hui, c'est les conséquences de ce qui s'est passé cet été au Liban, parce qu'avec l'attaque israélienne, ça a changé la donne politique, même s'il y avait des revendications politiques avant l'attaque. Mais évidemment, ça a mis aussi le plan américain du Moyen-Orient sur le devant de la scène au Liban de façon urgente, c'est-à-dire de dire, tiens, quel choix politique va faire le Liban par rapport à Israël, par rapport aux États-Unis et au plan américain du Nouveau Moyen-Orient, tout ça est lié. Donc, ce qui se passe en fait depuis un mois, c'est qu'il y a des mobilisations populaires incroyables. C'est vraiment un processus à la fois démocratique, à la fois révolutionnaire, c'est assez étrange. En tout cas, c'est un processus populaire de gens qui sont dans les rues depuis un mois, ce qui est énorme, ce qui est pratiquement inédit au Moyen-Orient, mais presque dans le monde, et on n'en parle pas. Avec Tadam, on en a organisé une conférence de presse il y a un mois pour essayer d'amener ce sujet sur le devant de la scène médiatique, mais c'est vrai que si vous essayez de chercher dans les journaux en anglais, en français, il y a vraiment des lacunes. On ne veut pas couvrir ça, parce que si on couvre médiatiquement ce qui se passe, on sera obligé de dire que cette mobilisation est réellement à la fois pacifiste, démocratique, c'est-à-dire que les gens sont dans les rues, c'est des sit-in, et donc ils ont planté des tentes dans le centre-ville de Beyrouth. C'est des gens qui sont, la coalition qui est dans la rue est représentée par des gens de toute religion, de toute tendance. Il y a une douzaine de partis politiques et des syndicats et des individus, etc., qui sont dans les rues. Je ne sais pas si vous pouvez imaginer 1 à 2 millions de personnes au Liban, donc presque la moitié de la population. On ne peut pas dire que c'est un parti politique, c'est sûr que c'est beaucoup plus large que ça. Et donc la revendication est à la fois simple et à la fois très complexe parce qu'il y a la géopolitique de la région. La revendication, c'est d'avoir plus de représentativité de ces groupes d'opposition au pouvoir. Donc au départ, c'est parti de la démission de ministre du cabinet des ministres qui demandait d'avoir un tiers de blocage, c'est-à-dire plus de ministres pour pouvoir avoir plus de voix et pouvoir influer sur les politiques du gouvernement libanais, ce qui n'était pas encore le cas, alors qu'il représente une frange de la population beaucoup plus importante. Donc c'est tout simplement cette revendication démocratique-là. Et puis ensuite, il y a d'autres questions qui se sont posées. Et aujourd'hui, toutes les négociations, et c'est complètement bloqué, les tensions augmentent et il ne se passe rien là pour l'instant. En tout cas, il y a beaucoup de discussions, de négociations, mais pour l'instant, il n'y a absolument pas d'aboutissement. Le gouvernement ne plie pas parce que ce qui rentre en jeu, c'est justement le plan américain, avec qui le Liban va s'aligner, quel genre de politique il va avoir. Et c'est pas juste une question confessionnelle. Il y a vraiment des revendications politiques des gens qui sont dans la rue. Je ne sais pas si je suis claire, c'est assez compliqué.
Très clair, très clair. Est-ce que tu peux rester un peu?
Oui.
OK, on va jouer un peu de musique et puis on va retourner avec l'interview avec Leila de Tadamon, Montréal.
I said we're living in George Orwell's animal farm, yeah. I said we're living in George Orwell's animal farm, yeah. I said we're living in George Orwell's animal farm, yeah. I said we're living in George Orwell's animal farm, yeah. Manufacture like a robot in a factory. Human life is a monopoly. Imperialistic illusion, a unity. Everybody cried when Diana died. Who of you shed tears for Sankofa? Strange fruit, he wasn't crucified.
terror. War on a terror. War on a terror. War on a terror. Manufacture like a sweatshop worker in a factory. Be all you can be. Consume TV. Drive SUV. Go on a fucking shopping spree. Join the army. Think for me, big brother. Think for me, big brother. Think for me, big brother. Think for me. Don't believe that issue you see on CNN. The U.S. Army is not your friend. Prisoners of war in Guantanamo Bay. Every day they say another brother accidentally dies. American KKK. Television. Television. Lies, lies, lies. Manufacture like a sweatshop worker in a factory. Be all you can be. Consume TV. Drive SUV. Go on a fucking shopping spree.
Sur la gueule, vous nous méprisez. Ne t'étonne pas si ta caisse est carbonisée. Peu importe qui s'est sensibilisé. Brûle, brûle, Babylone brûle. Je veux t'entendre crier pour que tu hurles. Que la chaleur fasse fondre les barreaux des cellules. Qu'elle incinère ton système qui part en testicule. Firebone brûle, brûle, Babylone brûle. Je veux t'entendre crier pour que tu hurles. Tu dis qu'on avance, mais en fin de compte on recule. Un morceau lent, espère pour la jeunesse qui danse.
Okay.
Je l'issue de l'immigration, comme ils aiment tant le rappeler. Ça fait 30 ans qu'ils font que de parler d'intégration. Je me sens pas français, forcé de constater que l'on sait. Bah tu refuses, c'est juste un fait. J'ai vu, je sais, et le fossé se creuse de plus en plus. Tous ces mythos font leur buzz. Je sens l'insécurité, je sens la peur des gens. N'hésite pas à draguer l'électorat du front. Si je sens que l'histoire se répète, j'entends parler du rôle positif de la France durant les colonies. Putain, c'est quoi ces conneries? Quand nos pères étaient utiles et productifs, ils étaient bons pour ce pays, okay. Mais quand leurs fils crient vengeance, ils sont bons pour leur pays d'origine, la France. Un pays régi par des irresponsables qui multiplient les maladresses. Ne demande pas pourquoi je la graisse. Ma détresse. À son premier flic, un mec qui nie les faits salis, la mémoire des victimes qui met de l'huile sur le feu. Comportement indigne, trop prétentieux, trop ambitieux, tu vas nettoyer qui?
Brûle, brûle, Babylone brûle. Je peux t'entendre crier pour que tu hurles. Que la chaleur passe son départ aux des cellules. Qu'elle incinère ton système qui part en testicule. Firebrand brûle, brûle, Babylone brûle. Je peux t'entendre crier pour que tu hurles. Tu dis qu'on avance, mais en bas de compte, on recule. Un vent se lance, plein pour la jeunesse qui danse.
Alors, ça c'était Sniper avec Brûle. Et avant ça, on a eu Debbie Young avec Animal Farm. La deuxième fois, on a joué Debbie Young aujourd'hui. Anyway, j'aime le track. Nous sommes de retour avec Leila. Leila est une militante avec Tadamon, ici à Montréal, un groupe de solidarité avec le Liban. Leila, est-ce que vous pouvez décrire les priorités pour Tadamon cette année? Évidemment, rien n'a changé fondamentalement. L'absence de bombardement, c'est-à-dire pas qu'il y a du paix. Il y a toujours la lutte pour la justice. Alors, c'est quoi les priorités pour Tadamon dans les prochains mois? Je sais que vous êtes un groupe très actif. Alors, qu'est-ce qui se passe dans les
oui,
prochains mois?
Oui, on va rester actif et même plus actif, Inch'Allah. Donc, en fait, pour Tadamon cette année, on va essayer de continuer à parler beaucoup du Liban au Canada. Donc, on va organiser des événements, etc., des conférences. Ça, c'est toujours ce qu'on fait en général. Mais politiquement, la priorité va être, donc, comme j'ai dit, de se concentrer sur la campagne de boycott des investissements et sanctions, lancer une campagne fortement pour challenger, défier le fait que le Hezbollah soit sur la liste des organisations terroristes, mais surtout pour ouvrir le débat, pour essayer de parler réellement de ce qui se passe au Liban. Et on voudrait également trouver un moyen de parler de ce qui se passe aujourd'hui au Liban et de dénoncer le soutien qui est fait au gouvernement libanais de façon non démocratique, c'est-à-dire tout simplement, on soutient un gouvernement alors qu'il y a des manifestations populaires dans les rues, donc laisser les gens s'exprimer. Et donc, travailler sur cette conscientisation, on va dire, là-dessus. Et puis, là, par exemple, on a le ministre des Affaires étrangères canadien, Peter MacKay, qui va se rendre au Moyen-Orient dans 2-3 semaines, là. Donc, on va essayer de mobiliser également pour dire que le Canada n'est pas vraiment bienvenu ni au Liban ni en Palestine à cause de son soutien inconditionnel et totalement partial de l'État d'Israël, parce qu'il n'a pas condamné, tout ce qui s'est passé cet été, il n'a pas demandé le cessez-le-feu, mais jusqu'à aujourd'hui, je rappelle qu'il y a quand même une famille canadienne-libanaise qui est décédée sous les décombres, sous les bombardements israéliens, la famille Ahras, et le gouvernement canadien n'a pas condamné, n'a pas demandé une enquête, et on aimerait bien aussi faire la pression pour qu'il y ait au moins une condamnation et une demande d'enquête pour les morts canadiens et libanais, évidemment.
Selon Harper, l'attaque, c'était proportionnelle. Alors...
Voilà, tout à fait. Alors, la réponse était mesurée. Donc, évidemment, s'il y a des enfants qui meurent, c'est pas bien grave. Mais justement, de justement rendre responsable le gouvernement canadien des propos incendiaires qu'il dit et qu'il a continué à dire. Par exemple, là, dernièrement, en traitant le Hezbollah et le Hamas de groupes génocidaires, ce qui est complètement... illogique et même faux, enfin on peut pas utiliser ces termes comme ça. Donc continuer à défier le gouvernement canadien dans ses prises de position et donc s'opposer à un soutien et une ingérence canadienne dans la région. Voilà.
Ok. Pendant le bombardement du Liban, Israël a aussi continué avec son occupation de Palestine, mais surtout une attaque plus agressive contre Gaza. Alors, je vais jouer ici un extrait d'une interview faite avec Bruce Katz, qui est membre de Palestiniens Juifs Unis à Montréal, le 8 novembre dernier. L'armée israélienne ouvrait de nouveau de feu sur les civils, des femmes et des enfants dans le banc de Gaza. Et Christian Labrec de En profondeur a parlé avec Bruce Katz qui a expliqué ces événements et les conséquences en matière de politique internationale. Après cet extrait, on va finir avec Leila et continuer avec la rage du peuple. Mais maintenant, un extrait d'une interview le 8 novembre dernier avec Bruce Katz après l'attaque d'Israël à Gaza, surtout à Beit Hanoun.
Non, nous sommes avec Bruce Katz de Palestiniens Juifs Unis. Alors, bonjour, Bruce. Bonjour.
Est-ce que vous pouvez nous parler de qu'est-ce qui s'est passé? Parce que, bon, la continuité des agressions continue d'Israël contre la Palestine. Le 8 novembre, s'est passé quelque chose de spécial. Est-ce que vous pouvez nous raconter cet événement?
Oui, et encore une fois, il s'agit d'une autre incursion à Gaza. Cette fois, une attaque sur Pétanou, où on a tout simplement tiré sur des civils, y compris des enfants. C'est la tuerie qui continue, puis évidemment avec impunité. Les traces de destruction étaient telles que ça a été dénoncé immédiatement en tant que crime de guerre, et aussi à l'intérieur d'Israël, où certains observateurs l'ont décrit comme étant sans équivoque des crimes de guerre. Et maintenant, entre-temps, on n'entend plus rien de la soi-disant communauté internationale laquelle, à mon avis, n'existe pas. Ce qui s'appelle communauté internationale, c'est cinq ou six pouvoirs impériaux qui décide pour l'humanité ce qui constitue la légitimité, plutôt que ce soit le cas de l'état de droit. C'est la force, c'est la loi du plus fort.
Oui, bien sûr.
Évidemment, ce qu'on voit actuellement à Gaza, c'est la tuerie quotidienne, absolument un plan systématique pour nettoyer la Palestine de son peuple indigène. C'est du nettoyage ethnique. Cela ne peut même plus être débattu comme étant juste une possibilité. Ce n'est plus une possibilité, c'est une réalité. Et ça se fait sous le silence d'à peu près le monde entier, et y compris nos élus ici au Canada, qui ne cessent de dire que Israël a le droit de se défendre. Israël n'est pas la victime ici, ce sont les Palestiniens qui sont sous occupation, et le droit international reconnaît au peuple vivant sous occupation le droit de se défendre. Donc ce sont les Palestiniens qui ont le droit de se défendre, et le droit international leur accorde ce droit. Le droit de se défendre sous occupation est un droit légal reconnu par le droit international.
OK. Alors, les Palestiniens continuent leur résistance. Et dans ce cadre-là, il y avait une manifestation samedi aussi à Montréal pour dénoncer justement les différentes agressions d'Israël contre la Palestine et aussi contre le Liban. Et nous allons, je vous remercie beaucoup d'avoir été avec nous pour en parler. Nous allons maintenant passer à un extrait de cette manifestation. Merci, au revoir.
Merci, au revoir.
Récemment, pendant les deux dernières semaines, il y a eu des meurtres, des femmes, des enfants. Il y a eu 13 personnes tuées de la même famille, dont 7 enfants. Donc on est ici pour dénoncer ce crime inhumanitaire. Et on est aussi pour dire au gouvernement canadien de ne pas rester en silence envers les autorités israéliennes.
On appelle ça un massacre, on appelle ça un génocide qui n'a pas été condamné par le gouvernement à Ottawa. Puis de maquiller il y a deux jours, a refusé de donner n'importe quelle critique contre ce massacre. Aujourd'hui, on est ici pour condamner ça, on est en solidarité avec les Palestiniens. Israël a commis tellement de crimes contre l'humanité.
Solidarité avec la Palestine. Solidarité avec la Palestine. Solidarité avec la Palestine.
Alors, ça c'est La Rage du Peuple, c'est KUT 90,3 FM. Bonne année tout le monde. Ça c'était un extrait d'un reportage de Hors Profondeur, une interview de Christian Lebrecht avec Bruce Katz de Padjou, palestinien et juif uni, concernant l'attaque contre des civils à Gaza, à Beit Hanoun. Nous sommes toujours avec Leila de Tadamon. Leila a parlé de qu'est-ce qui se passait avec Tadamon cette année, qu'est-ce que Tadamon va faire, mais on va continuer. Ça, c'est ce qu'on dit en anglais, Freeform Radio. J'espère qu'on commence une tradition ici à CKUT de chaque jour de l'an, on fait des interviews comme ça, un peu de réflexion, mais aussi de réanimer nos luttes pour l'année à venir. Leila, il y a certains commentateurs qui disent que l'origine de qu'est-ce qui se passait cet été, le bombardement de Liban, tout le conflit au Liban en général, c'est l'occupation de Palestine. Est-ce que tu partages ce point de vue? Est-ce que ça, c'est les racines de tout ce qui se passe au Moyen-Orient, ou est-ce que c'est trop simpliste de dire ça?
Non, dire que l'État d'Israël, sa présence et son occupation et sa brutalité et sa nature coloniale et d'apartheid jouent... influence évidemment sur la région, et la résistance du peuple libanais, c'est la même que la résistance du peuple palestinien contre l'agresseur israélien, c'est une évidence. Et c'est sûr que ce qui se passe aujourd'hui en Palestine est lié... Enfin, on peut faire des liens évidemment entre ce qui se passe en Palestine et au Liban, surtout par les ingérences américaines dans la région. Et là, c'est sûr que la sécurité d'Israël est une priorité, c'est-à-dire qu'il y a trois grosses priorités au Moyen-Orient, c'est la protection d'Israël et la survie d'Israël pour les États-Unis, et également, bien sûr, le contrôle des ressources et la géostratégie de la région. Mais c'est sûr que préserver Israël et soutenir Israël à tout prix fait partie de la racine du problème, sachant que les crimes de guerre ne sont jamais condamnés.
Alors, Leila, est-ce qu'il y a des autres réflexions que tu as cet jour de l'an?
Je pense que la lutte va continuer à être longue. En Palestine, ça fait 60 ans qu'elle dure, et donc il faut absolument qu'elle continue. Mais je crois que surtout, il faut qu'on se mobilise pour qu'il n'y ait plus que la communauté internationale soit plus sourde et aux appels des Palestiniens, des Libanais, de la région et de tous les peuples opprimés, évidemment. Mais c'est sûr qu'il faut absolument qu'on continue la lutte, et on a un rôle ici au Canada à jouer. Il ne faut pas croire qu'on est loin et qu'on ne peut pas le jouer, parce que finalement, toutes ces luttes contre les ingérences étrangères dans les régions, ça joue aussi avec les luttes internes qu'on a ici au Canada, et qui finalement définissent aussi de la nature de l'État canadien.